Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour, bienvenue à tous, ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième heure, cette deuxième mi-temps du MAG de l'IMO. Il est avec nous depuis quelques minutes, c'est Olivier Landreville, le président de CAFPI. Alors Olivier, vous connaissez hein, la règle du jeu, c'est évidemment de nous parler des enjeux hein, immobiliers, CAFPI, et puis on veut aussi savoir un petit peu quel est l'homme derrière la fonction. On va vous passer entre guillemets gentiment sur le grill avec mon compère Sylvain Lévy-Valency.
Ça va Sylvain ? Voilà, on va dire que c'est un enjeu conversationnel, complètement déstructuré. Vous êtes rayonnant sur le plateau. Justement, on va apprendre aussi à vous connaître et connaître tous les partenaires que vous rencontrez en ce moment, parce que vous rencontrez énormément de monde. C'est un challenge aussi pour vous, professionnel. J'ai envie de vous poser une première question un peu plus générale. Vous nous dites exactement ce que vous avez envie. Qui êtes-vous, Olivier Landreville ?
Ah oui, vous êtes taqué fort, là.
Ah ouais.
Waouh.
Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ?
Alors, je suis un aventurier des services financiers. On va dire ça comme ça.
C'est bon, ça. Voilà. Il y a des aventuriers parmi les banquiers.
J'ai fait toute ma... C'est ça le paradoxe peut-être que j'avais envie de souligner. C'est-à-dire, j'ai fait toute ma carrière dans les services financiers, beaucoup dans la banque, mais pas que dans les métiers de crédit, disons, au sens plus large. Mais j'ai toujours recherché des aventures. Des aventures entrepreneuriales, des aventures humaines. J'ai fait beaucoup d'expatriations. J'ai bossé à New York, à Londres. J'ai fait quelques années en Nouvelle-Calédonie. Donc des aventures culturelles aussi. Voilà.
Alors, quel âge avez-vous, Olivier Landreville ?
48 ans.
48 ans, vous êtes tout jeune, en fait.
Et à chaque fois que je le dis, ça m'étonne, parce que je ne me sens pas 48 ans, mais bon, les années passent.
Regardez, on parlait de poésie tout à l'heure, quand on a écouté ce formidable morceau de la chanson d'automne de Georges Brassens, il suffit de fermer les yeux, on a 12 ans.
C'est ça.
Voilà, c'est effectivement le temps qui passe. Il y a quelques images qui nous rappellent, comme à ce cher Fabrice, que le temps passe, notamment quand il se regarde dans la glace, quand il se coiffe, n'est-ce pas ? Merci encore. En tout cas, voilà, c'est important, en fait, vous avez conscience qu'effectivement, nous ne sommes que des êtres humains, et effectivement, l'empreinte que l'on laisse, malgré les sujets très techniques qui nous occupent toute la journée, c'est important aussi de ressentir aussi la dimension humaine dans vos relations, dans vos rencontres professionnelles en général.
Oui, ah oui, complètement, complètement. Les deux sont intimement liés. Il y a rien qui fait plus plaisir sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan plus intime, en tant que cadre ou maintenant dirigeant d'entreprise, que de sentir qu'on arrive à faire grandir des gens qui travaillent avec autour de nous. Ça, c'est une mission extraordinaire.
Pour vous, le management, c'est avant tout un leadership par l'exemple personnel.
Ça passe par ça, oui, bien sûr, ça passe par ça.
Voilà, vous inspirez.
Mais ça n'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent aussi dans le leadership. On a parfois en France cette vision du leader charismatique né.
C'est vrai.
Ce sont ces hommes aussi qui ont forgé l'histoire de France, ces hommes providentiels, les Napoléons, les De Gaulle, etc., qui portaient ça en eux sans doute dès le premier jour. Bon, mais c'est pas le seul mode de leadership. C'est aussi quelque chose qui s'apprend. Il y a aussi des techniques de management. Moi mes années, j'ai fait 10 ans d'expatriation en environnement anglo-saxon. Et ils ont beaucoup plus la culture de transmettre des techniques de management. Ce sont aussi des techniques. C'est à la fois, c'est paradoxal d'ailleurs, le management, c'est à la fois de l'authenticité. Hein, si on n'est pas vraiment soi-même, ça se voit, ça se sent.
Humainement.
Et on n'a pas autant de levier, de force vis-à-vis de ses collaborateurs. Mais en même temps, c'est de la rigueur et de la technique.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que qu'est-ce qui précède l'un par rapport à l'autre ? Une nature profondément humaine d'aimer les gens, de vouloir les accompagner, ou plutôt une technicité ?
Je pense qu'il y a des préconditions en termes de caractère, effectivement. Et je pense qu'il faut une forme d'empathie. Il faut s'intéresser
aux autres. Pour être un bon manager, il faut être empathique.
Oui, complètement. Si on est trop tourné sur soi-même, si on n'a pas suffisamment réglé ses propres problèmes d'ego, j'ai envie de dire, on ne peut pas être un leader efficace, me semble-t-il.
C'est extrêmement intéressant parce que c'est hyper contemporain ce que vous dites, puisque cette quête de sens que les jeunes générations recherchent, elle reflète aussi les valeurs cardinales de ce retour à l'humain central, le human-centric, en quelque part. On est passé du techno-centric à human-centric. Et effectivement, c'est intéressant parce que faire précéder à la technique de management, vous avez raison, des vraies techniques de management, la dimension humaine me semble extrêmement intéressant. Alors justement, on a beaucoup de sujets pour vous. On a fait un petit survol lorsqu'on a préparé l'émission. On a beaucoup, on va parler professionnel, on s'est permis d'ailleurs d'appeler des personnes que vous connaissez bien, qui vont nous parler.
Je n'ai eu aucun droit de relecture ou de visionnage.
C'est le but de l'exercice, en tout cas merci de vous y prêter, parce qu'on va vous découvrir, on va découvrir celui aujourd'hui, l'homme que vous êtes, parce que vous avez un rôle d'influenceur, vous en êtes conscient. En prenant la tête, la présidence de CAFI, ça vous avez bien conscience de cela. C'est un petit écosystème, même si les volumes sont très importants. Je voudrais qu'on parle maintenant, qu'on s'oriente vers les clients avec un sujet d'importance. On en a relevé une petite dizaine que l'on va survoler pendant 7 heures. C'est l'assurance emprunteur. Voilà. L'assurance emprunteur, c'est le sujet du jour. Voilà. Alors.
Ou de l'année.
Voilà, ou de l'année, ou même de la décennie. Bon, des lois successives entre Benoît Hamon, Bourquin, les amendements...
On n'oublie pas Lagarde, voilà. C'était la première.
Et bien sûr, Lagarde, ont fait évoluer ce principe de l'assurance-emprunteur. Certaines mauvaises langues diront que l'assurance-emprunteur, ça reste encore le dernier levier de marge et de croissance des banques.
Ah, vous ne me ferez pas dire de méchanceté voilà. De mes amis banquiers.
Voilà. Maintenant, on va. Ce que je voudrais, c'est avoir votre avis sur l'importance de cette assurance emprunteur, parce que souvent, on prend l'assurance emprunteur sous l'angle financier du coût de l'assurance. Oui. Et je trouve qu'on ne dit pas assez que l'assurance emprunteur est aussi un élément protecteur de la famille et de la santé patrimoniale. J'aimerais bien qu'on équilibre un petit peu les deux. J'aimerais avoir votre sentiment sur, est-ce que vous voyez finalement, alors je dirais pas un durcissement, mais je dirais une actualité qui se saisit de ce sujet de l'assurance emprunteur dont on voit bien qu'elle est permanente dans les débats et notamment sur la structuration du coût du crédit où on se dit, tiens c'est marrant, l'assurance emprunteur coûte pratiquement aussi cher que le taux d'intérêt. Dites-nous en plus là-dessus.
Alors, d'abord, si vous le permettez, Sylvain, je reviens sur ce que vous disiez. Effectivement, une assurance, comme toute assurance d'ailleurs, ça n'est pas juste un prix, c'est pas juste le niveau d'une cotisation, ce sont aussi des couvertures. Donc la qualité, la pertinence des couvertures est une question primordiale qui mérite conseil d'ailleurs. Mais malgré tout, le prix compte.
Oui.
Parce qu'il faut quand même dire, c'est l'éléphant dans la pièce, hein, on est quand même sur un marché ou un segment d'assurance où les cotisations prélevées sur les emprunteurs représentent le triple des dommages qui sont pris en charge par les polices d'assurance. Donc on est sur des niveaux de marge qui sont quand même colossaux et donc le prix est quand même cardinal.
Oui, vous voulez dire que la sinistralité est finalement...
Oui,
très... Donc levier de croissance. Donc on a raison.
Donc c'est magnifique que cette loi permette... Marge, voilà. D'introduire enfin, un peu plus de fluidité dans le jeu de la concurrence, ça devrait permettre de faire baisser les prix.
Mais qu'est-ce que dit la loi concrètement pour nos auditeurs ?
Alors, le point crucial de la loi, pour moi, c'est qu'elle permet de changer d'assurance emprunteur à tout moment du crédit, ce qui paraît du bon sens, puisqu'on peut déjà rembourser son crédit quand on le souhaite, à tout moment. Donc ça va mettre beaucoup de souplesse, de fluidité dans le jeu. Parce que précédemment, c'était une seule fenêtre dans l'année.
D'accord, oui.
Et on avait même, en plus, du mal à connaître la date exacte, parce que selon les banques...
Oui, c'était la date anniversaire du contrat.
Ça dépendait. D'une banque à l'autre, c'était différent, c'était compliqué. Et ça se combine avec le fait qu'il faut aussi démontrer à sa banque que le nouveau contrat qu'on propose en substitution remplit 18 critères d'équivalence de garantie, parce que la banque veut être sûre qu'elle est toujours aussi bien garantie. Et donc, quand vous combiniez les deux, il suffisait que la banque soulève la moindre question sur un des 18 critères et vous ratiez la fenêtre annuelle et c'était rendez-vous l'an prochain. Donc, beaucoup de clients se décourageaient. Donc, le fait d'enlever la pression temporelle va permettre de traiter le sujet plus sereinement. Voilà. Donc, ça, c'est quand même important de le dire. Ensuite, nous, chez CAFPI, on est les premiers, enfin, comme d'autres confrères courtier en crédit, à dire que c'est aussi un sujet qui mérite conseil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir son assurance emprunteur uniquement en fonction du tarif. Il faut aussi regarder les couvertures qui sont dedans. Et surtout, regarder, vérifier que les couvertures, notamment les éléments optionnels de ces couvertures, correspondent à un réel besoin en fonction de votre situation. Et ça, ça va dépendre de votre profession, ça va dépendre de peut-être des solutions de prévoyance que votre employeur vous offre déjà dans le cadre de votre contrat de travail. Voyez. Donc, il y a deux couvertures qui sont non négociables, que de toute façon, la banque exige, qui sont la couverture décès et la couverture perte d'autonomie. Donc ça, c'est l'AVC gravissime qui vous laisse dans un état où vous ne pouvez plus jamais travailler. Bon, ouais, ça, de toute façon, vous êtes obligé de le prendre. Mais ensuite, le reste, ça se discute. Donc, le degré de couverture sur les risques d'invalidité partielle, disons. Mm-hmm. La couverture sur la perte d'emploi, par exemple, ce genre de choses. Ça se discute et ça dépend éminemment de votre situation personnelle. Typiquement, si vous êtes fonctionnaire titularisé, ne laissez personne vous raconter que vous avez besoin de la couverture perte d'emploi. Bon, ce genre de choses. Et puis, il y a aussi la question de la quotité. Alors, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais ça, c'est vraiment important. La quotité, c'est le pourcentage de vos échéances de prêt que l'assurance va prendre en charge si un incident survient. Alors, si vous êtes seul ou que vous êtes le seul revenu du ménage, de la famille, c'est très simple. Hein, de toute façon, la banque exigera quotité 100% sur votre tête. Mais là où ça se corse, c'est quand vous êtes deux revenus qui contribuent dans le ménage. Parce que là, il faut faire un choix quelque part entre deux extrêmes qui sont deux fois 100% de couverture, auquel cas, mais si l'un des deux décède, l'autre n'a absolument plus à se soucier des remboursements. Donc c'est très confortable, mais évidemment, ça coûte cher. Vous cotisez deux fois plus.
C'est clair.
Et puis deux fois 50%, qui est une solution minimaliste, qui peut convenir si les deux revenus sont à peu près équilibrés.
Équivalent, ouais.
Et qu'en cas de décès, la personne qui survit peut continuer à rembourser la moitié des échéances. Voilà. Mais dans beaucoup de cas, il faut trouver un équilibre
entre
les deux.
Ou un panachage, 70-30, si un membre du couple présente, par exemple, un risque plus élevé ou bénéficie de revenus plus faibles. Juste une question très pratique pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'AFPI, on pense tout de suite crédit immobilier. Est-ce que vous regardez également, on a le choix, vous faites le choix pour nous, courtiers, pour cette assurance en
Bien sûr, bien sûr. Alors, on le fait systématiquement. Si vous venez nous voir pour votre crédit, on vous conseille aussi sur le volet assurance. Ensuite, vous êtes libre de prendre l'assurance auprès de la banque où vous prenez le crédit ou auprès d'un assureur spécialisé, ce qui est souvent approprié, mais pas toujours non plus. Mais on conseille aussi beaucoup de clients qui viennent nous voir uniquement sur un sujet assurance. Ils ont déjà un crédit en cours, ils viennent nous voir pour...
Par exemple, moi j'ai un crédit en cours, je peux vous dire, je dis, je paye un peu cher, ou je trouve que je paye un peu cher, vous pourrez me conseiller.
Ah, bien sûr, on adore le faire.
Ok, question...
J'ai un scoop là-dessus.
Oui.
J'ai un scoop, alors vous l'avez peut-être vu parce qu'on a fait le communiqué de presse hier, mais on vient de signer...
Ça sent les fleurs.
On vient de signer un magnifique partenariat avec Magnolia.
Magnolia pour l'assurance emprunteur.
Sur l'assurance emprunteur, qui va permettre... alors c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est-à-dire ça va permettre à nos courtiers de disposer d'un outil tech qui est vraiment au top de ce qui se fait aujourd'hui pour les aider dans le travail de comparaison des différentes offres qui existent. Ça va permettre aussi... et là, on est gagnant des deux côtés, de mettre en commun les volumes qui sont considérables quand on additionne Magnolia, qui est un acteur important, un pure player courtage en assurance, et les volumes CashPi qui sont très importants aussi. Et là, on atteint une masse critique qui permet aussi de négocier des contrats et des tarifs pour les clients des deux maisons. Qui vont être les meilleurs du marché. Donc on est très très enthousiaste.
C'est vrai que Magnolia c'est un courtier, on peut le dire,
oui,
un courtier en ligne,
bien sûr,
qui effectivement a cette capacité, un peu à l'instar de ce que vous faites pour le crédit immobilier, c'est d'avoir des positionnements intéressants. Souvent les banques d'ailleurs conditionnent l'octroi des crédits à la souscription chez elles d'assurance emprunteur. C'est la question qu'on nous pose. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là?
Alors, je
sais que la question est délicate,
il faut être très précis.
Mais ça revient systématiquement parmi les commentaires de nos auditeurs.
Les banques sont fondées à exiger que votre crédit soit assuré, que vous soyez assuré dans le cadre de votre crédit contre certains risques tels que le décès ou la perte totale d'autonomie.
Ça, c'est obligatoire.
Elles ne sont pas fondées à décider où vous prenez cette assurance. Alors, bien sûr, mais c'est le jeu commercial, c'est de bonne guerre, on ne peut pas leur reprocher. Évidemment, elles essayent, elles vous encouragent à prendre la couverture chez eux. Mais vous êtes absolument libre de la prendre ailleurs. Et il est strictement interdit de lier les deux sujets. C'est-à-dire, on ne peut pas vous dire, Sylvain, si vous voulez votre crédit, si vous voulez qu'on vous octroie votre crédit,
vous faire l'assurance chez
vous. Vous êtes obligé de prendre l'assurance chez nous.
C'était un petit peu implicite quand même, jusqu'à il y a peu.
Je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance du droit qui peut faire que certains clients se sentent...
Alors ce sujet,
forcé de voilà, mais il faut être clair sur le sujet.
Ce sujet, Olivier Landrevi, est important parce que nos auditeurs nous posent très très souvent la question. Ils sont même très ennuyés sur le fait parce que souvent ils ont l'impression. On nous a posé deux questions hein, pour être très clair. On nous a posé la question de la domiciliation des comptes bancaires. Dans une banque qui aurait été choisie par tiers, qui conditionnerait éventuellement le crédit et la souscription de l'assurance. Je voudrais lier ça avec l'importance du courtier. Justement, est-ce que le courtier fait un peu tampon finalement dans tout ça et permet en fait d'avoir, vous savez, ce rapport de l'expert à expert, le courtier vis-à-vis du banquier.
Bien sûr.
Du coup, ça devient, c'est là que votre métier devient
bien
hyper
sûr.
Important.
Vous avez quelqu'un avec vous, du même côté de la table que vous,
c'est ça.
Qui connaît précisément vos droits.
C'est ça. Parce qu'il faut rappeler effectivement que le courtier, hein, c'est bien ça, est mandaté par le client.
Bien sûr.
Hein, et pas par la main. C'est très important. Ce sujet, Magnolia, on va en parler, bien évidemment. C'est important, c'est officiel, donc aujourd'hui, ça fonctionne.
Non, pas encore tout à fait. Ce sera opérationnel à partir de l'été.
À partir de l'été, quelle date 1er juillet, début juillet
Fin juillet.
Fin juillet. Eh bien, écoutez, on suivra avec beaucoup de vigilance ce sujet. Un autre sujet important, c'est l'évolution des taux d'intérêt.
Ouais.
L'évolution des taux d'intérêt. Alors là, je veux dire, prophète qui veut. On dit le mois prochain ça va baisser et ça augmente. Le mois prochain ça va augmenter et ça baisse. Néanmoins, on a quand même vu, vous le savez, depuis quelques semaines, une hausse des taux. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que ça va durer? Et quel est, si vous pouvez d'ailleurs nous donner un pronostic sur justement cette évolution de taux d'intérêt qui, il faut le rappeler, sont historiquement bas depuis des dizaines d'années.
Alors Sylvain, vous vous souvenez peut-être, vous m'aviez invité il y a quelques semaines, avant le début du conflit en Ukraine, et je vous avais dit alors que oui, il y avait un petit mouvement de hausse. Il y avait eu un premier petit mouvement de hausse en octobre.
Très juste.
Et puis, la plupart des banques ont remis le couvert en janvier avec un deuxième petit ajustement, en janvier ou février, selon les banques. Donc, au total, les taux avaient peut-être monté de 15 centimes, 20 centimes peut-être dans certains réseaux, entre le point bas qui était à l'été dernier et le début de cette année. Mais à l'époque, enfin, quand on s'était parlé en début d'année, je crois, je vous avais dit que je n'étais pas du tout inquiet, que pour moi, ce n'était pas le début d'un mouvement de fond, que c'était des ajustements et que peut-être le prochain ajustement serait une petite baisse. Enfin, voilà. Tout ça, c'est du bruit, d'une certaine façon. Et commenter le bruit, bon, ce n'est pas forcément passionnant. j'ai complètement changé d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Non, mais le conflit en Ukraine change tout, pour moi. Ça change complètement la donne. Je veux pas être catastrophiste, mais j'ai peur, je crains que ce soit notre ministre de l'économie qui ait eu la bonne formule la semaine dernière, quand il a parlé de troisième choc pétrolier. Toutes les conditions sont réunies pour un troisième choc pétrolier. Alors ça, c'est pas la garantie qu'on a ça devant nous, mais les conditions sont là. Petite leçon d'histoire, premier choc pétrolier, c'est la guerre du Kippour,
et oui.
En 73. Et les pays, les grands pays arabes producteurs de pétrole qui décident par rétorsion
le soutien
américain à Israël de refuser d'exporter leur pétrole aux États-Unis et du coup ça fait flamber les prix.
Oui.
Deuxième choc, 1979, la révolution en Iran. Donc vous voyez que sur chacun des deux premiers chocs, on est sur un coup de tonnerre géopolitique que personne n'avait venir, qui porte sur une région fortement productrice ou dans une zone proche de régions productrices. Là, on a le même cocktail. Voilà. On a le même cocktail. Alors après, il y a des différences sur le plan macro, mais qui ne sont pas forcément rassurantes, qui sont qu'à l'époque, sur ces deux premiers chocs pétroliers, dans les années 70, on attaquait la situation avec des finances publiques qui étaient très, très fortes, très peu d'endettement. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Hein. En plus, Covid est passé par là, donc les dettes publiques sont quand même très élevées. Ce qui va donner beaucoup moins de latitude en termes de remontée des taux.
Donc pour vous, ce cocktail, ça fait fléchir les taux vers le haut.
Mais ce cocktail, alors la première chose, c'est que ce cocktail, il peut réveiller les démons de l'inflation, tels qu'on les a connus dans les années 70, et enclencher des phénomènes qui sont ensuite très très difficiles à défaire. Même si on signe ensuite, même si dans un mois on signe la paix.
Mais c'est vrai qu'on a connu, moi j'ai l'âge d'avoir connu des taux d'intérêt à 14, 15, 16%.
Les chocs des années 70, les chocs pétroliers des années 70 nous ont valu 20 années d'inflation carabinée, hein, dont on a eu beaucoup de mal à sortir, et un chômage de masse dont on venait à peine de se débarrasser en France.
Donc, vous avez raison, puisqu'en 74, il y avait 400 000 chômeurs répertoriés selon les premiers indicateurs, et 7 ans plus tard, ils étaient pratiquement 4 millions. Donc, c'est phénoménal. C'est pas très réjouissant.
Non,
comme
c'est pas très réjouissant. D'accord. Et le levier le plus puissant pour combattre l'inflation, c'est évidemment celui auquel réfléchissent les banques centrales, c'est la remontée des taux directeurs des banques centrales. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là. Hein. Il y a eu une réunion de la BCE il y a quelques jours, il y a une semaine. Donc, c'est pas encore ce qu'annonce Christine Lagarde, mais il y a quand même un resserrement. C'est-à-dire que Christine Lagarde a annoncé la semaine dernière qu'elle accélérait le démantèlement du programme de rachat d'actifs, qui était le programme par lequel la banque... Pardon, c'est super technique, je m'en excuse. Par lequel la Banque centrale rachetait des obligations d'État et des obligations d'entreprise. Et c'est ça qui a créé des taux longs aussi bas depuis 2015-2016. Donc ça, elle le démantèle à... Le démantèlement était déjà prévu, mais là, elle accélère le rythme du démantèlement. Et la nouveauté, c'est qu'elle annonce d'ores et déjà que le jour où ce programme est complètement démantelé, et on anticipe que ce sera à l'horizon de l'été, dans quelques mois, elle enclenchera immédiatement le début de la hausse des taux directeurs.
Donc par voie de conséquence.
Et donc les économistes anticipent que le taux de dépôt des banques, le taux auquel les banques peuvent redéposer leurs excédents de trésorerie, reviendra à zéro. Vous savez qu'il est négatif aujourd'hui. En fait, c'est une taxe. Les banques se font taxer sur vos dépôts à vue qu'elles remettent à la BCE. Donc, on repassera à zéro avant la fin de l'année. Et ensuite, très probablement, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, on poursuivra la hausse. Donc, ça veut dire que les banques auront beaucoup moins d'incitation à prêter, à produire du crédit. Et c'est bien ça que souhaite la Banque centrale pour ralentir le rythme de l'inflation. C'est de resserrer gentiment le robinet du crédit. Donc ça fera remonter...
En fait, c'est réduire l'endettement des consommateurs dans une certaine mesure.
Des acteurs économiques en général,
Des acteurs économiques, ça peut paraître comme étant un non-sens, parce que précisément... par le biais de la dette, justement, et de l'emprunt, on fait fonctionner un système de consommation interdépendant. Ça, c'est un élément. Vous avez fait allusion au conflit ukrainien, mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on écoute un témoignage. Quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit d'Agnès Siron-Cavoisi, je le dis bien.
Cavoisi.
Et qui est directrice du contrôle de gestion de la BRED. Et c'était votre bras droit avant que vous rejoigniez Copy. Justement, alors, est-ce que vous aimeriez entendre ce que vous disait votre ancien bras droit?
Je suis pas sûr.
Ancien bras droit. Voilà, on vous fait la surprise, on l'écoute tout de suite.
Agnès Siron-Cavoisi, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez travaillé avec Olivier, vous êtes directrice du contrôle de gestion de la BRED et vous étiez le bras droit d'Olivier. Alors, comment il est dans le travail déjà? Combien de temps vous avez travaillé avec lui?
Alors, moi, j'ai travaillé au final assez peu de temps avec lui, donc pendant 2 ans et demi. Mais ça a été 2 ans et demi assez intense et riche pour moi, puisque dans le travail, c'est quelqu'un qui est d'une efficacité assez redoutable. à la fois intellectuellement, il peut découvrir des dossiers au pied levé et tout de suite comprendre les sujets, et à la fois en termes d'organisation, toujours à l'heure, toujours dans le respect des deadlines, donc une grande capacité d'analyse et de synthèse.
Est-ce qu'il y a un mot pour le décrire, je ne sais pas, un mot qui illustrerait Olivier Landrevi?
Pour le décrire, lui, on pourrait dire très courageux, mais un mot qu'il disait assez souvent et qui est assez peu commun, c'est fichtrement.
D'accord, un mot qu'il employait assez régulièrement.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Agnès, dernière chose, Olivier vous écoute. Est-ce que vous aimeriez lui passer un petit mot, lui dire quelque chose?
Au-delà du fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce qu'il fait émerger et grandir des talents, je pense que je retiens aussi de lui qu'il a su s'entourer intelligemment de beaucoup de femmes. Et donc ça, je pense que je peux que l'encourager à continuer dans cette voie.
Magnifique.
Wow. Ça,
magnifique, ça peut être.
Ça
là, je peux vous dire que... Vous êtes d'accord avec moi, Fabrice, on aimerait bien entendre ça de collaborateurs, de personnes qui ont travaillé avec nous. Qu'est-ce que ça vous évoque? Il y a deux choses qui reviennent.
Je suis très sensible à deux choses qu'a dit Agnès. C'est le courage. C'est une valeur qui se perd, le courage. Et c'est un impératif quand on prétend être dirigeant. D'avoir du courage, managérial, d'avoir le courage de prendre des risques. Le courage de montrer le chemin, le courage de se mettre soi-même en première ligne plutôt que de laisser les équipes y aller et puis se prendre les coups.
C'est un peu normal aussi, vous êtes défini vous-même comme un aventurier de la finance.
Bien sûr,
quand on est aventurier, il faut du courage.
Évidemment, c'est
non,
normal.
Chez soi.
Évidemment, c'est normal. Mais
comment ça se traduit au niveau de votre management, justement? C'est parce que c'est des décisions, courage, ça veut tout à rien dire. C'est quoi? C'est aussi annoncer parfois des décisions, prendre des décisions difficiles les équipes, pour la conduite du business.
Des choses même dures, des fois, auxquelles vous avez dû faire face, peut-être se séparer même de quelqu'un.
Ah, bien sûr. Ah, mais c'est
moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur.
Oui, mais alors quand on en arrive là, c'est déjà un échec. Au quotidien, le courage qui permet de ne pas en arriver là, ou en tout cas le moins souvent possible, c'est le courage de donner du feedback. C'est le courage de montrer ce en quoi on aurait pu être encore meilleur. Il n'y a rien de plus démoralisant pour un collaborateur, et notamment pour des très bons collaborateurs qui sont super performants, que finalement, de ne plus avoir de feedback parce qu'on leur dit tout est nickel, super, touche à rien. On n'a plus envie de se lever le matin, quoi. On veut tous un challenge en plus, quoi. Montre-moi comment je peux encore grandir. Ma carrière, elle ne s'arrête pas là.
Ça, justement, vous-même, est-ce que vous avez eu des mentors, des gens qui vous ont ébloui, alors soit professionnellement, soit sur d'autres plans?
J'aime beaucoup votre question parce que la première école de management, c'est le mimétisme. C'est quand on, alors il y a une part de hasard là-dedans, mais quand on a la chance d'avoir, soit en direct, soit ça peut être aussi de façon un peu plus indirecte, un dirigeant ou un manager qui a ses qualités, et là vous absorbez comme une éponge. Et oui, j'ai eu cette chance plusieurs fois. Alors des personnages très différents
qui vous inspirent,
les uns les autres, avec des personnalités très différentes, mais qui m'ont inspiré, qui m'ont montré le chemin, et que je, d'une certaine façon, que je copie aujourd'hui dans certaines pratiques, dans certaines techniques.
Alors, il est temps maintenant de parler du sujet, parce que vous l'avez évoqué de façon très claire et de façon assez aussi technique, c'est le conflit, l'impact géopolitique, effectivement. Alors, il y a une chose que j'ai retenue dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la chose, on ne l'a pas vu venir. On n'avait pas vu venir la guerre du Kippour, même s'il y avait effectivement des préparatifs de l'Égypte qui s'armaient sur le Jourdain, évidemment. On n'aurait pas pu prévoir, d'ailleurs, qu'ils allaient attaquer le jour même du Kippour. Vous avez évoqué l'Iran, avec aussi les fautes géopolitiques, notamment de la France, que je rappelle quand même que l'ayatollah Khomeini était réfugié en France avec la bénédiction du gouvernement français à Naufle-le-Château. Bien évidemment, ça, ce sont des leçons que l'histoire retient. Est-ce que l'histoire retient les histoires ? Bon, c'est pas. On pourrait en parler. Il y a deux choses finalement qui nous font penser qu'on est dans une espèce de permacrise. Un Covid que la personne aussi n'avait vu venir, une dimension pandémique incroyable. C'est la quatrième du siècle, hein, faut quand même le savoir. Et ensuite, ce conflit géopolitique dont certains disent que Vladimir Poutine avait déjà ses idées en tête depuis qu'il a accédé au pouvoir il y a une vingtaine d'années. Alors, pour mettre un petit peu de légèreté, si je peux dire là-dessus, et encore une fois, je peux vous dire que vous allez rentrer dans le panthéon de nos invités du Mac de Limo, vous allez choisir un titre, moi j'adore, c'est Dire Straits, c'est Brothers in Arms, les frères d'armes, c'est cultissime. D'ailleurs, pour ceux qui sont les adeptes de Mark Knopfler, c'est juste un morceau d'anthologie. Ça va nous permettre effectivement de mettre un peu de légèreté, mais aussi de développer, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, justement ce conflit ukrainien et à quel point ça peut aussi, bien évidemment, avoir un impact dans notre écosystème. Je vous propose de l'écouter.
And you'll know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. To die.
Toujours ici dans votre mag de limo, j'aimerais effectivement lier, si je peux me permettre, ce titre avec ce conflit ukrainien, qui est un conflit difficile. Hein, juge, je rappelle quelques chiffres. Nous attendons en France l'équivalent de 1,5 million de réfugiés. Il serait à peu près, on estime à peu près 10 millions, un déferlement de cette population ukrainienne dans, en Europe, avec tout ce que ça entraîne comme difficulté. Les Lettons, aujourd'hui, se posent de grandes questions. L'Estonie, mais c'est aussi la Pologne qui a joué un rôle et joue un rôle extrêmement important. Alors, bien évidemment, il faut qu'on lie ça avec l'évolution du taux d'intérêt, parce qu'on le sait que la condition préalable pour acquérir les biens, ça reste les taux d'intérêt.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement voilà, en quoi ce conflit ukrainien, vous l'avez déjà abordé précédemment, va avoir un intérêt ou un impact négatif ou positif sur les éléments, ce qui serait quand même un paradoxe. Est-ce qu'il est toujours temps d'acheter? Est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent?
Alors, ça peut paraître paradoxal, mais je pense qu'il faut bien séparer les deux volets de votre question, en fait. C'est-à-dire que le conflit a un effet inflationniste très fort, c'est l'aspect choc pétrolier qu'on a abordé, et ça donne le devoir à la Banque centrale de lutter contre ce tsunami d'inflation. Et la seule façon de le faire, c'est de remonter les taux et de fermer partiellement le robinet du crédit. Donc, je m'attends, je n'ai pas de boule de cristal.
C'est la seule solution, Olivier ?
Oui. D'empêcher que la spirale inflationniste prenne, c'est la seule chance qu'on a. C'est de remonter les taux.
Mais ça va stopper la consommation.
Et bien sûr. Mais il n'y a qu'en stoppant la consommation que vous empêchez que la spirale inflationniste s'enclenche.
Mais du coup,
c'est triste, mais...
Mais si on fait ça, on entre dans une période d'austérité.
C'est ce qui s'appelait la stagflation.
Ouais. Ouais. Ça, c'est pas très bon pour le ménage.
Bien sûr.
Avec la flambée des prix. Enfin, voilà.
Bien sûr. Mais... Alors, la bonne nouvelle, c'est que... d'abord...
Donnez-nous des bonnes nouvelles aussi, parce qu'on est en train de déprimer tout le monde à 8h39 le vendredi, juste avant le week-end.
Il y a deux bonnes nouvelles. Ouais. C'est que, d'abord, cette remontée des taux que je décris, c'est une prévision, mais je n'ai pas de boule de cristal, le pire n'est jamais certain, et aujourd'hui, on ne la voit pas encore.
Oui, hein, c'est clair.
Vous venez cet après-midi, Sylvain, et je vous finance à 20 ans à... 1,03, c'était notre taux moyen le mois dernier.
C'est déjà incroyablement.
Et même plus bas pour les meilleurs profils, dont vous faites certainement partie.
Merci, c'est gentil.
Donc il est encore temps de sécuriser des taux bas, historiquement bas ou très proches des plus bas qu'on a connus. Donc on a encore un peu de temps devant nous. Ensuite, l'autre bonne nouvelle, pour ceux qui sont déjà propriétaires, c'est que les périodes d'inflation... historiquement, ont toujours été excellentes pour l'immobilier. Vous savez, le terme de valeur refuge que tout le monde utilise encore aujourd'hui, il date des années 70 et il a été inventé pour parler de la pierre qui était perçue par tout le monde à l'époque comme finalement le seul réceptacle pour son épargne qui permettait de ne pas être rongé par l'inflation, enfin de faire en sorte que son pouvoir d'achat ne soit pas rongé par l'inflation.
Ça conserve en fait la valeur. Ça.
Exactement.
On va dire, je vais prendre un terme un peu gestion de patrimoine, mais c'est une classe d'actifs, l'immobilier, qui est très résiliente en fait en réalité.
Exactement. Donc paradoxalement, l'accès au crédit va se durcir. Et là, on va sans doute en reparler, pour les primo-accédants, ça va être compliqué.
Alors justement, je voulais vous basculer sur la réglementation.
Mais pour celui qui peut débloquer de l'épargne pour s'offrir de l'immobilier, ça va être une période extraordinaire, je pense. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je fais.
D'accord. En fait, tous ceux qui sont liquides, qui ont un peu de liquidité ou de l'épargne, vous leur diriez, c'est le moment d'arbitrer. Quoi.
Absolument.
Il vient de nous glisser, c'est ce qu'il fait. Olivier, alors où c'est qu'on investit ? C'est que vous investissez ?
Ça, après,
partout.
Oui, enfin, généralement, ce qu'on recommande, c'est quand même de rester proche de chez soi. Hein, parce que c'est quand même plus simple pour la gestion, quand il y a des soucis avec les locataires, etc. Mais bon, voilà.
Alors, tout à l'heure, on vous a parlé, effectivement, on a écouté ce fabuleux témoignage d'Agnès Siron-Cavoisi, très élogieux. Je voudrais qu'on en écoute un autre qui est plus d'actualité, mais qui est intéressant, puisqu'effectivement, vous êtes en pleine période de développement, et on va finir d'ailleurs cette heure sur, effectivement, les missions de CAFI. Je vous propose qu'on écoute Jean-Paul Julien. Jean-Paul Julien, il est directeur général de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. Il était en charge du marché des entreprises à la Bred, hein, vous le connaissez très très bien. Et quand on lui a posé la question, il nous a dit une chose. Il nous a dit, nous avons de très très belles choses ensemble en termes de développement. Voilà, il a une vision très holistique finalement du partenariat. Je vous propose qu'on découvre son témoignage.
Bonjour Jean-Paul Julia.
Bonjour.
Alors vous êtes DG de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté et vous avez travaillé avec Olivier.
Exactement. Durant un peu plus de 5 années, on a travaillé ensemble et ça a été très très agréable. Il est vif évidemment, mais surtout il est toujours capable de sortir du cadre parce qu'il est très sensible au développement. Donc c'était toujours très agréable.
Quelle est sa plus grande qualité ?
Ah, il est vraiment marrant. Il a un humour anglais, évidemment, mais il est vraiment marrant.
Un humour anglais, c'est-à-dire ?
Ah, il peut être très mordant et piquant, mais au fond, c'est un grand gentil.
D'accord, c'est une carapace, en fait.
Ouais, un peu, je pense.
Olivier est en plateau avec nous. Je tiens quand même à dire que vous êtes sorti de votre bureau pour descendre dans la rue parce que vous captiez mal pour, justement, ce témoignage. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Il vous écoute, il est en studio.
Eh bien, qu'il soit heureux et qu'il amène ses équipes dans des endroits où tout le monde gagne en fierté et en plaisir. C'est un beau programme.
Alors, c'est intéressant. Alors, il y a deux choses, hein, parce que là, les auditeurs, là, ils vont pas vous louper. Hein. Ils vont dire, tiens, on a un banquier qui cite Verlaine. C'est vrai.
On a un ex-banquier.
Voilà, on a un ex-banquier qui cite Verlaine. On a un ex-banquier qui aime Brassens. D'ailleurs, Strait, total respect. Et en plus, il est drôle. Mais qu'avez-vous été faire dans une banque ?
On s'amuse beaucoup dans la banque.
Ouais, ouais. Alors justement,
se sait peu.
Mais écoutez, il faut vous faire passer plus souvent à la radio parce que vous disruptiez ou vous cassez le modèle du banquier traditionnel. Vous savez, qui est triste, un peu gris, etc. C'est pas du tout le cas. Il y a une chose qui revient quand même beaucoup quand on interroge vos proches. C'est votre capacité intellectuelle d'une grande vivacité. Vous avez toujours été comme ça ? Vous avez toujours été un premier de la classe ? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette capacité ? Parce qu'on dit deux choses quand même. Hein. On dit capacité d'analyse et parfois, quand il est nécessaire, sortir un peu des clous, faire le pas de côté pour justement axer toujours sur le développement. D'où ça vient, ça ?
Si ma mémoire est bonne, au jeu de la vérité, l'invité avait droit à un joker.
Joker ?
Non, là, honnêtement, je ne sais pas répondre. Vous me mettez dans
l'embarras. Non, mais je ne vous mets pas dans l'embarras. Je veux dire, est-ce que c'est un trait de caractère ? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que vous avez été porté naturellement vers ce type de fonction ? Qu'est-ce qui vous anime ?
Je crois que je le dois à mon papa, qui est quelqu'un d'une exigence et d'une vivacité intellectuelle extraordinaire et qui m'a transmis ça. Mais c'est un... C'est aussi une malédiction. Désolé s'il m'écoute, mais c'est aussi une malédiction parce que c'est on se met un degré d'exigence sur soi-même et on ne se pardonne rien, quoi.
Et vous le vivez aussi à titre personnel ?
Oui.
Dans votre vie, dans votre vie personnelle ?
Oui.
C'est la même exigence.
Je fais un effort conscient, mais pas toujours réussi, pour essayer de ne pas être aussi. Aussi dur, aussi exigeant vis-à-vis de mes propres enfants, mais je n'y arrive pas toujours.
Ça ne doit pas être, oui, ça doit pas être évident parce qu'effectivement, ça demande un exercice et presque athlétique hein, comme discipline. Je sais que vous ne voulez pas trop parler de vous, mais on a essayé quand même pour vous connaître un peu mieux. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des axes stratégiques de CAFI. Il n'a échappé à personne puisqu'on l'a publié, on vous a fait venir aussi pour ça. Des fonds d'investissement ont acheter le groupe Kaspi, bien que je crois d'ailleurs que la famille Assouline, Maurice Assouline, est toujours actionnaire.
Absolument.
Minoritaire. Ouais. Je crois qu'il détient toujours 10% du capital, me semble-t-il. Et donc, vous avez été recruté, si je peux dire, pour accompagner cette transition. Première question, qui sont les nouveaux actionnaires du groupe Kaspi? Parlez-nous d'eux. Et quels sont, effectivement, avec ce changement d'actionnaire, les mutations qui vont s'opérer? Est-ce qu'on s'inscrit dans une continuité? Est-ce qu'on s'inscrit dans une rupture? Et comment, enfin, la dernière partie de notre émission, j'aimerais que vous, dans un secteur difficile, atomisé, avec des parts de marché qui se structurent, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont aujourd'hui des fonds d'investissement, puisque les entreprises, entre guillemets, familiales, Kaspi était la dernière dans ce secteur. Vous nous parliez un petit peu de tout ça. On va commencer déjà sur ces axes stratégiques et ce changement d'actionnaire. On vous écoute.
Alors, le nouvel actionnaire, c'est un fonds qui s'appelle Blackfin, qui est un fonds français, qui est un des deux seuls fonds, à ma connaissance en Europe, à être 100% spécialisé dans les services financiers. Ils n'investissent que dans les services financiers. Donc, ce sont des métiers qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Ils font ça très bien et ce qui est remarquable, c'est que dans leur histoire, c'est que les fondateurs de Blackfin, il y a maintenant une quinzaine d'années, ce sont en fait des entrepreneurs eux-mêmes. C'était les cofondateurs de Fortuneo.
On peut les citer.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Paul Mizrahi, Eric May, j'ai plus le nom du troisième compère.
Fortuneo, réussite considérable.
Voilà. Et quand ils ont cédé à Arkea, en 2007, je crois, ils ont recyclé le produit de la vente pour lancer cette activité d'investissement. Voilà, donc ce sont des gens qui ont une vraie vision du secteur et qui, voilà, quand ils investissent dans Kaspi, ils savent où ils ont envie d'emmener Kaspi. Alors, ce qui nous amène du coup à ces questions de stratégie. Alors, ce qui est extraordinaire avec Kaspi, c'est qu'on a à la fois des bases très très solides sur lesquelles on peut s'appuyer, des bases historiques. Hein, Kaspi, c'est
l'inventeur,
c'était le pionnier. C'est, voilà.
Oui, 71, je crois.
C'est ça, 71. Ouais. Les frères Assouline inventent le métier en France. Et pendant longtemps, ça a été le seul acteur vraiment structuré du secteur, jusque dans les années 2000.
Ah oui, tout à fait.
Donc ça, c'est une base très solide. Il y a aussi une proximité avec les professionnels de l'immobilier qui est unique, hein, qui est vraiment un très grand atout. Et puis aussi, ce qui est très reconnu cette fois par les partenaires bancaires, c'est le professionnalisme, le sérieux de Kaspi dans le montage des dossiers et dans la loyauté vis-à-vis des partenaires. Donc tout ça, ce sont des fondamentaux, des fondations qui sont extrêmement solides et sur lesquelles on compte construire. Et en même temps, comme dit l'autre, il y a le potentiel de faire beaucoup plus. Il y a un potentiel de digitalisation qui est très important, où il y a encore beaucoup de choses à faire. La présence web de Kaspi, c'est relativement récent, hein, c'est ces deux dernières années que ça a vraiment commencé, donc il y a encore des choses à faire en termes d'investissement. Il y a beaucoup de choses à faire pour investir dans des technologies qui vont permettre d'offrir les meilleurs outils de la place à nos courtiers pour mieux faire leur métier de conseil et d'accompagnement des clients. Voilà. Donc ça, c'est un axe fort. Ensuite, il y a un axe que je qualifierais peut-être d'horizontal, un axe d'extension du réseau Kaspi. Donc Kaspi, aujourd'hui, c'est 240 agences, un peu moins de 1100 courtiers, entrepreneurs courtiers. Et on aimerait doubler la taille de ce réseau, en tout cas en nombre de courtiers.
Combien vous dites ? 1100.
Horizon 5 ans.
1100.
Oui, 1100.
Donc ça veut dire 50, 2200 personnes ?
Oui, enfin 2000. Si on arrive à 2000, on sera très content.
Voilà, profil entrepreneur. Hein.
Oui. Alors, je dis entrepreneur, et ce n'est pas un vain mot.
Oui, justement.
Je dis entrepreneur
justement,
parce que ce sont des gens qui sont
salariés,
indépendants,
voilà,
hein, qui sont à leur compte, à qui on fournit des murs, la meilleure formation du secteur, une marque, les partenariats bancaires les plus riches du secteur. On travaille avec 120 partenaires bancaires. Il n'y a aucun courtier qui a un tel,
oui,
panel.
Avec un maillage territorial 100%.
Avec un maillage...
partout dans les... C'est important de le rappeler.
Aucune région ne nous échappe.
Voilà. Partout dans les régions de France, on peut trouver un conseiller Kaspi qui nous accompagne.
Bien sûr, d'accord. Bien sûr. Mais ce courtier, il est véritablement à la tête de sa petite entreprise. Et donc, il a toute liberté de déployer la stratégie marketing qui lui semble appropriée pour développer son réseau d'apporteurs d'affaires, aller travailler avec des agents immobiliers, des conseillers en gestion de patrimoine, des promoteurs immobiliers, etc. Et ils ont une grande autonomie. Donc, c'est un modèle qui est très, très contemporain.
Ils ont un statut, juste pour entrer dans le statut, si je peux me permettre le détail, agents commerciaux ?
Non. Mandataire. Le statut technique, c'est mandataire. C'est un terme que j'aime pas trop parce qu'il fait un petit peu peur, il est très technique. Mais bon, je préfère parler d'entrepreneur courtier.
Voilà, entrepreneur, ça veut dire qu'il gère ses propres charges sociales, voilà.
Ça veut dire qu'il a des charges sociales à payer, bien
d'accord,
entendu.
Okay.
Ça veut dire aussi qu'il a la maîtrise intégrale de l'intensité qu'il met dans son business.
D'accord. Il n'y a pas de revenu fixe.
Il n'y a pas de revenu fixe. Il n'y a pas de charge fixe non plus, puisque les murs, c'est CAFPI, l'infrastructure, c'est CAFPI, le système informatique, c'est CAFPI.
Si on veut, pour ceux qui nous écoutent, là, vous voulez passer de 1100 agents à 2000 d'ici 5 ans, vous rejoindre, est-ce que c'est une franchise, puisqu'on sait que là, il y a le salon de Franchise Expo qui démarre, où il faut s'adresser directement à vous
c'est ça.
Voilà, j'ai envie de bosser dans le cadre. Je suis ancien banquier, j'ai envie de gagner plus d'argent.
Vous n'avez aucune barrière à l'entrée comme pour une franchise, en fait. Vous n'avez pas de mise de fonds. Vous n'avez pas un chèque à faire.
Ça coûte rien. Devenir...
Non, ça coûte.
Mais la sélection, doit être drastique.
Ça coûte indirectement le temps qu'il va vous falloir à vous construire un réseau d'apporteurs avant de pouvoir commencer à générer des revenus. Donc, il faut que vous soyez prêt en termes d'épargne, que vous puissiez voir venir pendant les 12 mois qui viennent.
Ah oui, d'accord, voilà. Très bien.
Mais on voit beaucoup de gens qui arrivent à bénéficier d'aide pendant cette période. Enfin, on sait aussi accompagner.
D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait...
Et donc on veut en intégrer entre 400 et 500 par an, des nouveaux courtiers.
Quel est le profil de ceux que vous recrutez ? Alors vous venez de la banque, mais est-ce qu'un ancien banquier, c'est le profil idéal aussi ?
Alors, on a beaucoup d'anciens banquiers. Alors évidemment, quand on est ancien banquier, on a déjà la compétence conseil. Ça, c'est évidemment très important.
Et technique.
Et technique.
Oui.
Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est aussi un métier de prospection. C'est un métier où il faut se construire son réseau d'affaires, son réseau d'apporteurs d'affaires. Ça, les banquiers souvent découvrent cet aspect du métier. Ce qui est très, très chouette dans le modèle CAFPI, c'est qu'on a de très beaux succès avec des gens qui viennent d'univers très différents. On a parfois des purs commerciaux qui ne connaissent rien aux services financiers.
Mais qui ont un don.
Voilà. À qui on va apprendre de A à Z le métier du crédit.
D'accord.
Et qui vont au final être des top performeurs pour nous.
En fait, il n'y a pas de super profil, il y a plein de profils différents qui sont tout à fait adaptés, en fait, ce que vous nous dites.
Il faut surtout le goût de sortir, d'aller rencontrer des prospects, de pousser les portes. Il faut une certaine résilience aussi, parce qu'au début, les portes se referment, donc il faut revenir, etc. Mais c'est un très, très beau métier. Et c'est très contemporain. C'est doublement contemporain, je pense, pour les jeunes générations qui se cherchent sur le plan professionnel. D'abord par l'autonomie qu'on a en tant qu'entrepreneur courtier. On a la maîtrise totale de l'intensité, du temps de travail, etc. Mais aussi par le sens. Je crois que vous en parliez tout à l'heure, hein, Sylvain, en début d'interview, de cette quête de sens que les jeunes mettent dans leur métier, dans leur recherche de carrière. Et là, vous avez un métier où toutes les semaines, vous avez la chance d'accompagner un jeune ménage chez le notaire au moment où ils deviennent propriétaires, c'est grâce à vous.
Vous réalisez le
c'est
rêve.
Juste, c'est incroyablement gratifiant.
Mais c'est sûr.
Incroyablement.
C'est jubilatoire. Il y a quelqu'un que l'on voudrait aussi vous faire écouter un témoignage. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir bien dire son prénom. Meritchel Mestre, senior advisor chez CBC, administratif du groupe April, et avec qui vous avez donné des cours à HEC pendant pas mal de temps. Je vous propose qu'on l'écoute.
Meritchel Mestre, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donné des cours à HEC pendant longtemps avec Olivier.
Oui, en fait, je connais Olivier depuis très très longtemps. Mais depuis environ 4-5 ans, nous donnons un cours à HEC sur les opportunités de travail dans la banque d'affaires. Et c'est une conférence qu'on fait tous les ans. On présente un petit peu les différents métiers de la banque d'affaires. Et ensuite, on passe pas mal de temps avec chaque étudiant pour leur expliquer ce qui va ou ce qui ne va pas dans leur CV.
Et comment est le professeur Olivier ?
Ben, je trouve qu'il est quand même très consciencieux et très sérieux. Donc, il étudie toutes les pages qu'il a à faire, il prend des notes. Donc, il essaie vraiment de faire au mieux pour que les différents étudiants puissent bénéficier au maximum de la conférence qu'on donne tous les ans.
Ce rôle lui tient à cœur.
Oui, parce que comme il avait été ancien élève de HEC, je pense que ça lui fait quelque chose d'y aller tous les ans pour être professeur à ce moment-là. Et il a vraiment envie de donner au maximum et d'être sûr de ne rien oublier par rapport à ce qu'il a à dire sur les différents métiers et que les élèves puissent vraiment avoir toutes les informations nécessaires.
Olivier, donc ancien élève d'HEC et maintenant prof à HEC, il est avec nous en studio. Il vous écoute. Est-ce que vous aimeriez lui dire un petit mot ?
Oui, en fait, je voudrais lui dire bonjour, que je suis ravie qu'il soit aujourd'hui à la radio et que voilà, que c'est un super parcours qu'il a fait, que je le félicite pour son job de DG chez CAFPI et que ça va me manquer de ne plus l'avoir comme partenaire dans les cours à HEC dorénavant.
C'est incroyable. Alors, nous, on reçoit beaucoup d'invités, mais c'est pas si souvent que l'on entend ce type de d'éloge à l'égard d'un invité.
C'est me faire rougir, mais on est à la radio, c'est difficile de rougir à la radio.
Vous êtes en image, on vous voit. Mais alors justement, ça vous fait plaisir quand on vous dit des choses comme ça ?
Évidemment,
ça fait plaisir.
Évidemment, ça fait plaisir.
Non, mais ça reflète surtout le fait que vous êtes la personne que les personnes décrivent.
Mais là, en plus, elle parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est le sujet de la transmission. Le fait d'avoir cette chance de pouvoir retourner sur un campus.
D'aller sur la chaîne.
Et de donner quelques trucs à la jeune génération qui est assise sur les mêmes bancs sur lesquels j'étais moi. Il y a quelques années, c'est très chouette. Ça me rajeunit.
On va devoir se quitter, mais avant de se quitter, je vais vous laisser faire l'introduction du prochain titre. Notamment, il s'agit de Dave Brubeck. Et j'aimerais vous citer juste une chose. Tout à l'heure, on a parlé d'humilité. Je voudrais citer Léonard de Vinci. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. Je pense que c'est votre cas. Dave Brubeck, c'est le choix que vous avez fait avec Tech Five. Pourquoi ?
Alors, ça symbolise l'entreprise telle que je l'aime. C'est-à-dire, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de rythme, et en même temps, un mélange de quelque chose de très structuré, très cadré, et du talent individuel et un espace pour exprimer le talent individuel. Mais un talent individuel aussi dans une parfaite synchronicité coordination entre les talents. Et voilà, c'est l'entreprise quand tout va bien.
On l'écoute. Et merci encore, Olivier Landrevis. Je rappelle que vous êtes le président de CAFPI.
Merci à vous.
Et je gage que nous vous reverrons souvent sur Radio Imo. Merci.
Merci à tous. Bonne journée.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.